France Culture, grand reportage, Catherine Pétillon.
Avant, il neigeait tout l'hiver. Ça s'est dégradé d'année en année et la neige a manqué. En 60 ans, c'est flagrant. Il faudra que les gens s'adaptent au réchauffement climatique.
C'est une végétation qui démarre de plus en plus tôt au printemps. Des phénomènes climatiques qui sont de plus en plus violents, donc ça nous fragilise beaucoup sur la production.
Ce qui est principalement visible aujourd'hui, c'est vraiment la perte d'épaisseur du glacier et le profil du glacier qui a changé.
Le problème du ski est un beau problème parce qu'il met le doigt justement sur une forme de tourisme en montagne qui est menacée à terme.
C'est un territoire où les effets et les marques du réchauffement climatique sont déjà bien visibles. Dans les Hautes-Alpes, depuis 1900, la température s'est élevée de 2 degrés contre 1 degré en moyenne ailleurs en France. Et d'ici 2100, c'est 95% du volume des glaciers des Alpes qui aura disparu. Toutes les activités humaines sont bouleversées. Agriculteurs, éleveurs, professionnels du tourisme doivent déjà travailler avec ces désordres climatiques. Cela veut dire instaurer d'autres manières de faire, utiliser des techniques différentes, changer d'organisation de travail ou de modèle économique, imaginer des usages alternatifs du territoire, en somme, s'adapter. À très court terme, il s'agit de vivre au mieux avec les effets du réchauffement climatique. Il en va même de la survie de certaines activités économiques, comme celles qui tournent autour de la montagne. L'enjeu, c'est surtout d'imaginer pour l'avenir un changement de modèle viable qui articule les questions socio-économiques et environnementales. Ces solutions locales peuvent-elles devenir des stratégies face à un enjeu global et constituer un modèle de développement différent ? S'adapter au changement climatique, déjà une réalité dans les Hautes-Alpes, c'est un magazine de Véronique Rubérotte. Et pour en parler avec nous ce soir, Richard Bonnet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du service scientifique du Parc des Écrins et vous êtes à Gap, chez nos confrères de la radio Alpes 1, qu'on remercie de vous accueillir. Et pour dialoguer avec vous depuis Grenoble et les studios de France Bleu Isère, Philippe Bourdeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'Institut de géographie alpine à l'Université Grenoble-Alpes. Et à mes côtés, à Paris, Véronique Rubérotte, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Véronique, on peut peut-être commencer par situer un peu les endroits où vous êtes allée.
Alors on est tout en bas du département des Hautes-Alpes. Enfin quand on est tout en bas de ce département, on est à environ 130 km de Marseille. Le département en fait est coincé entre la Savoie au nord et les Alpes de Haute-Provence au sud. Il fait partie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Lavande à la Haute Montagne, dit-on de ce département. Territoire sauvage, très attaché à sa spécificité montagnarde.
Alors pourquoi avoir choisi d'aller là-bas ?
Parce que là-bas, vous l'avez un peu dit, on touche vraiment du doigt dans ce département les désordres climatiques. Le réchauffement n'a rien d'abstrait, on le vit depuis des années, quand ailleurs, sur d'autres départements ou territoires, le réchauffement climatique n'évoque que des scénarios inquiétants, mais encore à venir. Et puis, on le voit, ce réchauffement, on le constate de visu avec, en premier lieu, le retrait des glaciers, la neige de plus en plus rare dans les massifs alpins, les saisons là aussi décalées, les habitants des Hautes-Alpes, aux avant-postes du dérèglement climatique, peuvent non seulement témoigner des effets du réchauffement, mais aussi de ce qu'ils font, de ce qu'ils imaginent pour s'adapter. Là encore, rien d'abstrait, vous l'entendrez. Ils mettent en place des stratégies, vous l'avez dit, des solidarités, qu'en tant que spécialiste, par exemple, environnement, j'ai parfois illustré, mais à l'étranger, au Pérou, où les glaciers fondent aussi, au Mozambique, où les sécheresses s'enchaînent, et puis ailleurs. Là, c'est en France que ça se passe, dans un département français, sentinelle d'un dérèglement planétaire.
Et on part avec vous au Dévoluy, c'est au nord-ouest de Gap. On est un peu moins de 1000 mètres d'altitude, et là-bas, vous avez rencontré un éleveur et une partie de ses 800 brebis.
Bonjour mesdames, bienvenue sur notre ferme.
Donc moi c'est Sébastien Arnaud, je suis éleveur dans le massif du Dévoluy, dans le département des Hautes-Alpes. Donc je suis éleveur de moutons mérinos et on est producteur de laine à tricoter.
Alors là dans le parc ça va être des brebis qui sont en train de faire l'agneau, alors à tout moment il y a un petit agneau qui peut naître. Balinette, balie, file aux brebis là-bas. Allez.
On est éleveur depuis 1817 sur le massif du Dévoluy, du côté paternel et maternel. Donc du coup, on est quand même au courant de comment ça se passe. Le climat, on le voit évoluer tous les ans. Alors déjà d'une, les saisons, elles sont quand même complètement différentes d'une année sur l'autre. Là, cette année, ça a été particulier. Alors on a eu un printemps où il a fait très doux, il a fait très très beau. On n'a pas eu trop de chutes de pluie. Et ensuite, on a eu une fois de plus un été super sec, quoi. Il y a eu quand même quasiment pas de pluie, quoi. Quand j'étais gamin, les étés, normalement, on avait beaucoup d'orages. Tous les soirs, on se prenait des orages à répétition, ce qui faisait partie du climat montagnard, hein. Là, depuis quelques années, moi notamment depuis 5 ans, depuis que je suis installé, On a des étés qui sont super secs. On a le temps de ramasser notre fourrage, alors qu'à l'époque de mon papa, de mon grand-père, c'était plus compliqué. Avec tous ces orages l'été, les fenaisons, on appelle ça ramasser le foyer, c'est les fenaisons, duraient des fois jusqu'au 15 août. Sauf que là, maintenant, à l'heure actuelle, début juillet, cette année, j'ai eu fini les foyers. On n'a jamais vu ça, quoi. C'est quand même exceptionnel. Et ensuite, l'année dernière, 2019, on n'a jamais vu, nous, montagnards, notre vallée, aussi sèche, on serait cru dans les steppes de Mongolie, c'était toujours jaunâtre. C'est du jamais vu. Mon père qui a 72 ans, son seul souvenir c'était 1976, où c'est qu'on a eu une grosse année de sécheresse sur toute la France aussi généralisée, mais n'avait jamais connu ça, une telle sécheresse, à tel point que certaines sources qui ont toujours coulé, depuis que je suis gamin, je les ai toujours vues couler, ont été asséchées en deux-deux, quoi. C'était quand même surprenant. Donc du coup, ça commençait vraiment à nous faire peur et... Moi, tous les jours, on pense un petit peu à cette sécheresse, voir comment on pourrait éventuellement anticiper ça et faire au mieux pour qu'on puisse continuer à faire de l'élevage raisonné comme on le fait à l'heure actuelle. Quoi. Voilà.
Il faut travailler autrement que votre père, par exemple, par rapport à ce qui, les températures qui augmentent, tout ça.
Alors, travailler autrement que mon père, c'est un bien grand mot, parce que finalement, je reviens un petit peu aux sources de l'élevage de nos moutons, qui est la production de laine. Sur certains choix... Oui, je diminue un petit peu le chargement de mes bêtes sur nos surfaces.
Moins de bêtes, non ?
Un petit peu moins de bêtes, ouais. Parce qu'on crée ces coups de sec, quoi. Tous les ans, on a quand même un petit peu la boule au ventre en se disant est-ce qu'on va avoir une bonne année ou une mauvaise année ? Ce qui est quand même très compliqué à gérer. L'année dernière, donc du coup 2019, il nous a fallu rentrer des bêtes en bergerie au 15 août. Ça nous est jamais arrivé. Et elles sont ressorties début mai. Parce qu'on n'avait pas d'herbe en extérieur. Donc du coup, toutes les brebis que vous voyez là, l'année dernière, ont été contraintes de rentrer en bergerie et de manger du fourrage sec avec des céréales plus des apports de minéraux. Alors tout ça, économiquement parlant, ça a un coût, quoi. Nous, on a des stocks fourragers pour 6 mois. Août, ça faisait 3 mois plus tôt. Donc du coup, il nous a fallu un stock fourrager pour 9 mois, ce qui est quand même surprenant, quoi. En fait, c'est...
Je vais vous voir, là. Celui-là, c'est le vilain petit canard, un peu.
Ouais, il en faut toujours un, des petits moutons noirs dans le propos. Moi, je les aime bien, ceux-là. On s'en sert pour faire la coloration de notre laine. Les moutons blancs vont nous faire une laine blanche, les moutons noirs vont nous faire une laine brune, foncée, et en mélangeant les deux laines à un pourcentage différent, on va faire un gris. Donc du coup, sur toute notre gamme de produits, sur toute notre laine, vous ne verrez jamais aucune coloration ni teinture. Vous ne trouverez pas chez nous des pelotes bleues, roses. On restera sur trois couleurs de base, blanc, brun et gris.
Naturel.
Voilà, complètement naturel.
Vous disiez tout à l'heure, bon, qu'est-ce qu'on fait contre le réchauffement, justement, la sécheresse, les sécheresses répétées. C'est quoi la solution ? Vous avez parlé de réduire le troupeau, mais ce n'en est pas une.
Alors moi, la solution, pour moi, elle a été déjà d'une, d'arrêter de pratiquer du labour. Pour implanter des céréales, à certaines périodes, il nous faut de la pluie. Donc du coup, moi, chose que j'ai arrêté de faire, aucun labour. Et ensuite, je vais travailler avec la terre, ce qu'elle me donne en fourrage et herbe, hein, durant toute l'année. Donc du coup, on l'entretient au maximum. Le seul engrais qu'on va épandre sur nos terres, ça sera le fumier de nos moutons qu'on va curer pendant l'hiver et qu'on va épandre dans nos champs. Ça fera un petit apport d'azote et créer un petit peu des micro-organismes dans nos sols. Après, ensuite, il y a bien sûr conserver au maximum toutes nos haies, tous nos arbres qui sont présents sur le territoire, de les entretenir, de les tailler un petit peu à hauteur pour que les pieds puissent voir le soleil, et ensuite ça permettra de faire des zones d'ombre, je pense, à certaines périodes de l'année, et de maintenir un minimum d'herbes sèches. Et,
Il y a des arbres, c'est quoi comme arbre, ça ?
Alors là, il y a principalement du frêne, du frêne autour de nous, ensuite vous allez avoir beaucoup de pin, de mélèze, voilà, c'est vraiment les espèces qu'on va retrouver en altitude dans nos montagnes. Voilà.
Vous êtes le papa de Sébastien, monsieur Arnaud.
Oui.
On parlait réchauffement climatique. Vous avez vu la différence, vous ?
Ah oui, oui, énormément. Ça devient compliqué. Oui, parce que les hivers n'ont pas duré 4 mois, ils durent 3 mois. Avant, il neigeait, j'ai 73 ans. J'allais à l'école à 8 ans, 10 ans, 12 ans, je me suis rappelé. Il neigeait tout l'hiver. Ça, c'était régulier. Tout l'hiver, on avait de la neige, plus ou moins, on en avait tout le temps. Et après, ça s'est dégradé d'année en année et la neige a manqué.
Moins de neige, ça veut dire moins d'eau, moins de
moins
réserve.
Moins d'eau, moins de tout.
Moins de tout. Bon, vraiment vu, en tout cas, les choses évoluent.
Ah oui, 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 en 60 ans, c'est flagrant. On ne pourra pas y remédier, de toute façon, c'est comme ça. Il faudra que les gens s'adaptent au réchauffement climatique et faire quoi. C'est désolant, madame, de voir ça. Je ne sais pas la prochaine génération, si ça continue, l'évolution à cette allure-là, ce que va devenir nos pays de montagne. Ça devient triste.
Arrivé dans la ferme de Grégoire Delabre, c'est un arboriculteur. Alors autour de lui, il y a des pommiers avec au-dessus des filets pour les protéger de la grêle. On est dans le Val de Durance. C'est un peu l'eau vive de la montagne ici dans les Hautes-Alpes, dans un département par ailleurs qui est un des plus bio de France. C'est à peu près 30% de la surface agricole qui est certifiée agriculteur biologique. Il y a pas mal aussi de conversions en route, plus de 25 000 hectares. Donc c'est le deuxième rang, je crois, des départements biologiques de France derrière les Bouches-du-Rhône. Donc on va voir avec Grégoire Delabre comment effectivement là aussi quand on est agriculteur, arboriculteur, producteur de pommes, on travaille avec ces désordres climatiques.
Les filets ici font la grêle des oiseaux et des insectes. Parce qu'en fait, suite à deux épisodes de grêle, on s'est dit on est obligé de mettre les filets pour que ce soit viable, la ferme. Mais ça ne nous plaisait pas, les filets, parce que c'est du plastique. Mais c'est indispensable, quoi. Maintenant, on ne peut plus avoir une production sans avoir une protection anti-grêle. Et du coup, on s'est orienté vers ce système qui enveloppe la ligne et qui protège les arbres de la grêle, des oiseaux, parce qu'on a beaucoup d'oiseaux, comme on est dans un endroit très sauvage, et de certains insectes qui peuvent être nuisibles pour les pommes. D'accord. Ça nous permet de ne plus avoir de traitement. Quoi.
Grégoire Delame, on arrive chez vous, donc à perte de vue des pommes, on peut dire ça. Il y a combien
des pommes, on a 6 hectares de pommiers, dont 3 qui sont en production. Ça fait presque 20 ans qu'on vit avec 3 hectares de vergers.
Vous nous disiez, on est dans une sorte de course d'adaptation face au réchauffement climatique. Ça veut dire quoi ?
Depuis 20 ans, moi, ce que je mesure en tant qu'arboriculteur, c'est une végétation qui démarre de plus en plus tôt au printemps, des phénomènes climatiques qui sont de plus en plus violents. On a des grêles, des gels qui augmentent en fréquence. Ça existait déjà avant, mais c'est de plus en plus fréquent. Donc, ça nous fragilise beaucoup sur la production. Et ces phénomènes font que si on veut continuer à vivre, on est obligé de continuellement chercher des solutions pour s'adapter. Donc ces solutions court terme et des solutions long terme.
2017, vous dites ?
26-27 avril 2017, ça restera gravé dans mes mémoires, cette date-là, parce que ça avait démarré assez tôt, l'hiver n'avait pas été froid. 26-27 avril, il y avait des feuilles sur les arbres, il y avait des fruits sur les arbres, et on a eu deux nuits à moins 8 degrés. Et deux nuits à moins 8 degrés, le lendemain, vous regardez les feuilles, tout est encore vert, et tout d'un coup, ça devient tout noir. C'est ce qu'on appelle un gel noir, et ça tombe en poussière. Donc tout tombe en poussière. C'est le printemps, la végétation a démarré, tout devient noir et tombe en poussière. Le paysage devient apocalyptique, quoi. C'est un film de science-fiction. Quand j'en parle encore, ça me fait des frissons, je pourrais presque avoir les larmes aux yeux.
On peut s'approcher, vous avez combien il y a de variétés de pommes ?
Sur la ferme, il y a 16 variétés. Vous voyez, en fait, le changement climatique, ça met le verger en déséquilibre. C'est-à-dire que normalement, on a une récolte à peu près stable qui évolue entre 70 et 100 tonnes de pommes par an sur 3 hectares. Et les évolutions climatiques font que le verger est complètement déséquilibré. Et une année, on a une énorme récolte et l'année suivante, on n'en a plus. Alors face à ces évolutions climatiques, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Alors la grêle, on met des filets. Le gel, on se dit, on nous propose des solutions techniques. On se dit de chauffer. Alors, on met des bougies. Dans les vergers pour chauffer, des bougies de paraffine, mais ça coûte très très cher, ça coûte des milliers d'euros par nuit, et puis moi je suis agriculteur parce que ça a du sens, et là ça devient absurde, je suis en train de chauffer l'atmosphère, on a le problème de réchauffement climatique, je chauffe l'air pour éviter de geler, c'est tellement stupide.
À 8000 euros la nuit.
À 8000 euros la nuit, quoi. Ouais, je me dis, là, quand j'arrive à ce point-là, je me dis, c'est fini, je ne peux plus être agriculteur, quoi.
Alors quand même, c'est un métier que vous aimez bien. Comment on fait pour rendre la ferme résiliente ? C'est ça votre interrogation aujourd'hui ?
Ouais.
Face au réchauffement, oui.
Face au réchauffement climatique, face à ce désordre, ce qu'on se dit, il faut qu'on puisse durer dans le temps. On se pose la question, alors on est trop spécialisé, donc on se dit, plus on est spécialisé, plus on est fragile, donc il faut qu'on se déspécialise, qu'on se diversifie. Alors se diversifier, c'est se diversifier sur les cultures, c'est réintroduire des animaux dans le verger.
Vous faites que de la pomme pour l'instant ?
On fait que de la pomme pour l'instant, pommes, céréales et fourrages. Avant on faisait de la lavande, mais la lavande a été détruite aussi, peut-être dû au réchauffement climatique, avec une maladie qui est remontée en altitude. Et donc on se dit, on va réintroduire des animaux dans le verger, on se dit, de la volaille, des bêtes à plumes. Diversifier, c'est aussi avoir d'autres cultures, peut-être de la vigne, des fruits à noyaux, des plantes aromatiques et médicinales. Et c'est aussi être à plusieurs, parce que se diversifier, c'est plus de travail. Donc c'est peut-être accueillir des jeunes, des nouveaux associés qui viendraient s'installer et qui auraient des projets qui correspondraient aussi à la façon dont on vit. Une ferme, il y a 50 ans, une ferme dans les Hautes-Alpes, c'était 3 voire 4 générations sur la ferme. Il y avait les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants. Et chacun avait un rôle qui s'occupait du jardin potager, de faire le vin, de garder les brebis dans la colline, etc. Eh ben, la même question va se poser aujourd'hui, parce que je pense que le pétrole, ça n'a pas duré longtemps. Donc il va falloir avoir une agriculture plus intensive en main-d'œuvre. Donc il y a plusieurs solutions, c'est soit on se développe et puis on prend des salariés, soit on prend des associés. Moi je suis plus, on se sent plus intéressé par le fait d'accueillir des associés qui vont nous permettre de travailler en développant une intelligence collective et de développer la commune, le territoire sur des beaux projets.
Se réinventer ou disparaître du marché. Le domaine viticole allemand, installé dans la vallée de la Durance, a anticipé il y a quelques années les impacts du réchauffement climatique sur la vigne et le vin.
Donc il faut aller attraper ceux qui sont derrière et on en oublie. Hein.
Autrefois peu adaptés au climat, de vieux cépages sont désormais en adéquation avec la hausse des températures. C'est ainsi que le cépage Le Mollard, disparu à la fin du 19e siècle, a fait sa réapparition au domaine de Laetitia Allemand.
C'est un cépage de montagne extrêmement rare qu'on ne trouve que dans les Hautes-Alpes aujourd'hui et qui est particulièrement intéressant à deux titres. D'abord, c'est un cépage, on appelle ça à débourrement tardif, c'est-à-dire que sa végétation sort tardivement dans l'hiver. Ce qui fait que quand on a un coup de gel au printemps, ce qui arrive très souvent à la montagne, comme les hivers sont de plus en plus chauds, la végétation sort de plus en plus tôt et le coup de gel, il est mortel après pour les vignes derrière. Ça brûle la végétation. Avec ce Mollard dont le débourrement est tardif, même si les hivers ont tendance à se réchauffer, la végétation sort plus tard et il est protégé du gel. Et l'autre avantage qu'il a, c'est que comme beaucoup de cépages anciens, il fait un degré d'alcool moindre. On était il y a quelques années sur du 12-12,5. Aujourd'hui, à pleine maturité, on est sur du 12,5-13. Donc ça reste très raisonnable et c'est vraiment dans les tendances de consommation actuelles d'avoir ces vins un peu plus légers, un peu moins alcooleux. Et plus il fait chaud, son degré comme les autres cépages va monter, mais on reste sur des degrés raisonnables. Moi, je faisais, il y a très longtemps, j'aidais à servir l'été au domaine. Les gens qui arrivaient me disaient « Ah, vous avez du chardonnay, c'est bien, c'est un cépage qu'on connaît. » Aujourd'hui, le consommateur, quand il arrive, c'est quoi le vin local? Est-ce que vous avez une particularité? Est-ce que vous avez une spécificité? Et donc, du coup, on part sur cette histoire du Mollard, dont le nom veut dire petit mont, petite montagne. Alors, on leur dit souvent, c'est pas glamour, mais vous allez le retenir. Et c'est vrai que, du coup, on regrette pas du tout ce choix. Et au niveau climatique, avec les évolutions du climat aujourd'hui, on est même très content de l'avoir sauvegardé et de le travailler. Pendant longtemps, mon père a été le seul vigneron indépendant. Après, ils ont été 3, après, ils ont été 5. Et là, ces 3 dernières années, on a 6-7 nouveaux intervenants, y compris un bourguignon qui est venu s'installer, y compris un jeune vigneron qui a des vignes dans le Var, et qui se sont dit, ah oui, c'est peut-être là que vont se faire les vins de demain, les grands vins de demain, parce qu'on est sur des terroirs d'altitude, avec des nuits qui sont encore fraîches. Et donc, ça compense un peu cet effet réchauffement climatique.
Qui fait mûrir le raisin trop vite. Quoi.
Oui, qui fait mûrir le raisin trop vite, et avec des degrés d'alcool trop forts et trop élevés, c'est pas bon pour la vigne. Et puis aussi, il y a carrément des confrères, là moi j'ai discuté avec un confrère du Sud, ces vignes ont été brûlées par la sécheresse. Il m'a envoyé des photos, les feuilles elles sont marron. Nous on a cette chance, aujourd'hui, pendant longtemps on était sur des climats presque un peu trop froids, donc on avait du mal à arriver à maturité, ça arrivait très tard à maturité. Aujourd'hui on vendange quasiment en même temps que tout le monde et avec un potentiel super intéressant.
Quand on aborde les questions de réchauffement climatique et de transition énergétique dans un territoire comme celui-ci, les Hautes-Alpes, hein, haute montagne, on ne peut pas ne pas parler de ce qui se passe dans les refuges. Il y en a 43 dans le département, des refuges de haute montagne. On va se rendre au refuge Buffert. On va voir quelles réflexions il y a autour de l'autonomie énergétique de ces refuges, comment faire en sorte de supprimer par exemple les groupes électrogènes. C'est quand même pas terrible pour l'environnement. Il y a des solutions techniques, hein, énergétiques. Peut-être des micro-centrales hydrauliques pour la production d'électricité. Voilà, et puis tout ça, bien sûr,
en tirant parti des ressources naturelles qui sont là et qui respectent la nature et aussi la réglementation en vigueur. On va voir comment ça se passe, comment on peut allier réchauffement climatique, lutte contre le réchauffement climatique et à la fois équipement de ces refuges.
Bonjour, bienvenue au refuge de Buffert, situé dans la vallée de la Clarée à 2076 mètres d'altitude. Donc un petit refuge ouvert été comme hiver. L'été, on accueille une trentaine de personnes dans le refuge et on a une petite annexe juste au-dessus, un autre petit chalet.
Il y a l'électricité, parce que ce qui est intéressant, c'est la problématique de comment on amène. On parle réchauffement climatique, transition énergétique. Comment ça fonctionne cette ampoule ?
Alors nous sommes totalement autonomes. On a notre propre énergie, donc nous fabriquons notre électricité grâce à une turbine hydraulique qui n'est pas située bien loin, mais qui est complètement insonore, qui ne nous dérange absolument pas et qui nous permet donc d'alimenter notre refuge, notre cuisine et l'annexe au-dessus, donc où l'été on accueille encore du monde.
On va la voir ?
Ouais, bien sûr, on est à 2 minutes.
Ouais.
Ah, c'est plus le même. Je suis Claudio, comme on dit. En fait, je suis Claude Deval, je suis le gardien du refuge Buffert. Et je suis aussi le constructeur du refuge.
M'emmenez où, là, du coup ?
Là, en fait, je vous emmène voir notre système de production d'énergie, qui est une turbine hydraulique. Donc, comme son nom l'indique, elle fonctionne avec de l'eau. On emprunte de l'eau au ruisseau un peu plus haut, 100 mètres dénivelé plus haut. Cette eau est acheminée avec une conduite forcée, enfouie, une conduite en polyéthylène.
Donc on ne voit pas du tout.
Ah ben elle est absolument enfouie, c'est regazonné, on ne voit plus. L'installation a 17 ans, hein, donc ça fait quelques années que ça fonctionne bien, qui donne entière satisfaction, tout va bien. Et avec cette machine, donc, qui produit 6 kg, on satisfait tous les besoins en énergie du refuge, c'est-à-dire lave-vaisselle, un lave-vaisselle professionnel, un lave-linge, qui nous sert bien en cette période un peu compliquée de cet été. Mmh. On doit beaucoup plus se laver que d'habitude.
C'est compliqué, oui.
Voilà, mais bon, normal, on s'adapte. On a tout l'éclairage, bien entendu, et on alimente un autre petit chalet et encore un autre chalet. Donc tout ça avec 6 kilos, c'est vraiment la fête. Ouais. C'est la fête. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble cette installation. Alors là, on a...
Vous auriez pu mettre aussi des panneaux solaires, mais moins performants.
Ah, les panneaux solaires, carrément moins performants. C'est que pour arriver à 6 kg, il faudrait une surface de panneaux vraiment conséquente. En sachant que l'hiver, on fonctionne aussi l'hiver, les panneaux seraient sous la neige, il faudrait déneiger régulièrement les panneaux. Donc ça représente un travail vraiment colossal et inutile. Et l'autre aspect, par rapport à, si on compare au solaire photovoltaïque, c'est qu'on produit une H24, on produit 6 kg. Si on a, en supposant que l'on puisse réaliser une installation solaire de 6 kg, et on produit 6 kg pendant au mieux 2 heures. Donc ensuite, il faut des batteries, enfin, c'est très compliqué, c'est d'un point de vue environnemental pas très très propre, parce que les panneaux c'est du silicium, c'est de l'aluminium, c'est du polycarbonate. On ne sait pas franchement le recycler, il y a aussi des batteries, il y a un tas d'électronique, enfin, c'est vraiment très compliqué. Là, on est, comme je dis très souvent, c'est un tas de ferraille. Bon, enfin, en fait, pour de vrai, c'est de l'inox, c'est de l'aluminium, et il y a un petit peu de cuivre aussi, mais c'est totalement recyclable. Et là, encore une fois, en 17 ans, pour l'instant, vraiment zéro souci.
Ça turbine.
Là, on entend turbiner. Je vais ouvrir la porte, ça va faire un petit peu plus de bruit. Donc voilà, là, on entre dans le local turbine, qui est effectivement un peu plus bruyant, mais c'est simplement un bruit mécanique. Il n'y a aucune nuisance. L'énergie, c'est de l'eau. On utilise de l'eau par gravité et qui est donc sous pression, qui entraîne au bas l'étage turbine.
On peut passer sur
les aspects techniques. Juste, bon, ce système, il est accouplé à un alternateur et lui produit l'énergie. Voilà, c'est vraiment, on ne peut plus simple.
Vous me disiez, je vais vous mettre un truc en route, vous allez voir la différence entre alors l'énergie là, fossile et.
Absolument. On a un groupe électrogène de secours, donc qui sert jamais, puisque la turbine donne entière satisfaction. Mais au cas où, si on avait un problème, soit de colmatage ou un coup de foudre qui ferait que la turbine grille, on a un groupe en secours pour que nos randonneurs ne soient juste pas dans le noir et que nous, on puisse continuer à faire notre travail. Donc là, je vais vous le démarrer et je crois que la démonstration sera faite.
Ça fait du bruit aussi, mais vous m'avez dit un petit panache noir alors.
Ah, le petit panache noir, il est à l'extérieur, heureusement, sinon...
Ah oui, oh là là, oui, oh là là.
C'est un panache noir. Au démarrage, c'est un peu normal. Il n'est pas très odorant.
Oui, on sent que.
Donc, on va couper. Hein. Je pense que la démo est faite.
On n'a pas l'odeur à la radio, mais c'est vrai que c'est pas grave. C'est un pot d'échappement, quoi. Ouais. C'est le pot d'échappement qui se met en. s'éloigne.
Donc, comme vous voyez, on s'éloigne. C'est pas très, très agréable. Très curieusement, pour installer ce groupe électrogène, d'un point de vue administratif, il ne faut aucune autorisation.
Ah oui, ça, il faut aucune autorisation. Aucune. C'est là où vous êtes un peu tout grincheux. Vous dites on a des ressources naturelles, on les utilise, on vient nous chercher un peu des noises. C'est là où il faudrait que ça évolue un peu.
Voilà, je ne sais pas s'il faut appeler ça des noises, mais c'est vrai que les services de l'État ne sont pas toujours très conciliants et pas très souples, c'est le moins qu'on puisse dire sur les installations hydrauliques, alors que c'est une vraie ressource naturelle.
On ferme la porte ? Oui,
on ferme la porte. Ouais. En fait, rien n'est simple pour les installations hydroélectriques. Et effectivement, c'était un dossier administratif plus que conséquent. Mais en fait, tout est vraiment très, très, très compliqué. Il faut des études, il faut des tas de choses. Alors, moi, il y a 17 ans, je n'ai pas fait toutes ces études-là. Donc, ce qui fait que je les ai emmenées aujourd'hui. Je dois faire la mise à jour. Mais bon, ce n'est pas très, très évident. Et les services de l'État ne sont pas très conciliants.
Pour fermer à cause des troupeaux ?
Ouais.
Le président du syndicat des gardiens de refuge des Hautes-Alpes, Sébastien Louvet, a fait un voyage au ministère de l'écologie en février dernier, 600 km à vélo, pour demander plus de souplesse et d'aide dans l'installation de systèmes d'énergie renouvelable dans les refuges de montagne. Mais il n'a rien ramené dans son sac à dos.
Quand on fait une demande de subvention au département, c'est la croix et la bannière pour avoir une poignée de cacahuètes pour installer 3 panneaux solaires. Et sur un département comme le nôtre, moi, ça me rend dingue, quoi. Et on bosse, nous, sur la transition énergétique depuis quelques années. Donc on a montré patte blanche dans ce domaine. Et quand on demande un peu des coups de pouce au département, il n'y a rien qui tombe, ça avance pas. C'est tout bête, mais on a fait, pour les refuges qui souhaitaient, on a réussi à faire subventionner un peu des chauffe-eau solaires pour faire de l'eau chaude. Voilà, c'est des petites actions comme ça, les toilettes sèches, etc. Et des fois, on aimerait que ça aille plus loin. Ouais, c'est être propre. Et puis, c'est de dire, mais regardez, vous arrivez dans un refuge qui fait 40 ou 50 places et fonctionner aux énergies renouvelables, c'est possible. On y arrive. On arrive à vous faire manger. Vous avez réussi à prendre une douche chaude, à dormir dans un refuge chauffé. C'est possible. Ça fonctionne. C'est pas un truc de babos du fin fond de la Lozère. Ça marche, quoi.
Là, aujourd'hui, il y a des propriétaires de refuges, des gens qui tiennent des refuges et qui sont en train de se désespérer, qui vont peut-être remettre un groupe électrogène parce qu'ils vont pas pouvoir finalement avoir les autorisations, tout ce qu'il faut pour s'équiper propre, encore une fois, en énergie renouvelable.
En l'état actuel des choses, c'est des investissements et des études de fou. Et je veux dire, si t'es pas un peu passionné, si t'es pas un peu convaincu et si t'as pas un peu la foi et une énergie dévorante à mettre là-dedans, à un moment donné, tu te dis, ah, c'est bon, hein. Allez, groupe électrogène, tu mets 10 000 euros, tu fais tourner du gasoil à n'en plus finir et c'est tellement plus simple, c'est tellement la solution de facilité. Et je pense qu'il y a des gardiens, effectivement, qui des fois perdent un peu la foi et se disent, bon, bah, allez, tant pis, quoi. Et c'est dommage, c'est dommage.
Dans son numéro daté de cet automne, la revue L'Alpe écrit que les glaciers sont aux Alpes ce que l'ours blanc dérivant sur un morceau de banquise est à l'Arctique, l'image iconique du réchauffement climatique. Les glaciers des Hautes-Alpes sont en état d'urgence climatique. Le tourisme alpin, largement construit autour de la ressource neige, doit trouver un autre équilibre. Plusieurs scénarios sont possibles, mais pour le glaciologue Bernard Francou, toutes les voies ne sont pas forcément bonnes à explorer.
Non, il y a deux choses. Il y a d'une part limiter la casse, puisqu'on a quand même le choix entre, d'ici la fin du siècle, 2 degrés ou 4 degrés, et c'est extrêmement différent. C'est deux mondes différents. 2 degrés, c'est gérable, 4 degrés, on ne sait pas ce que ça donne. On a déjà pris 2 degrés dans les Alpes. Hein. Voilà, si vous êtes dans les stations de ski, le tourisme hivernal, par exemple, hein, eh bien, la solution actuellement, c'est effectivement la neige de culture. Avec la neige de culture, on est tranquille, entre guillemets, au-dessus de 1800 mètres jusqu'en 2050 à peu près. À partir de 2050, le tourisme hivernal, suivant le scénario que vous choisissez, scénario 2 degrés ou le scénario 4 degrés, à ce moment-là, vous pouvez dire au revoir au tourisme hivernal. Alors, l'adaptation également possible, et on le voit bien actuellement, vous voyez les stations de ski en France, mais pas seulement en France, mais en Suisse et en Autriche, il y a énormément de projets qui sont déposés pour étendre le domaine skiable vers où ? Ben vers le haut, forcément, sur les glaciers. Et quels sont les arguments ? Les arguments, c'est le changement climatique. Donc ça s'appelle une fuite en avant ou une fuite vers le haut. Voilà. Donc le problème du ski est un beau problème, à mon avis, parce qu'il met le doigt justement sur une forme de tourisme en montagne qui est menacée à terme. Pas les grandes stations, hein, mais les petites, moyennes stations qui ne dépassent pas 1500 mètres ou 2000 mètres d'altitude, elles sont véritablement menacées. Donc il est urgent pour elles de diversifier leur tourisme.
L'arrivée au glacier de la Girose se fait par le téléphérique de la Meije, la station où la grave la Meije, spot mondial d'alpinisme. On vient de loin dévaler sa piste de 2150 mètres de dénivelé, piste d'un seul tenant, unique en Europe. Concernée par la fonte de ces glaciers, la station prévoit de s'engager dans de lourds aménagements.
Donc David Le Guen, directeur commercial communication au téléphérique de la Grave, et là on est au col d'Herluillan à 3200 mètres. À l'arrivée du deuxième tronçon du téléphérique.
Vue magnifique sur quoi ?
Alors, vue magnifique sur la Meije, forcément, qui est omniprésente ici, et sur le glacier de la Girose, qui est à nos pieds et qui s'étend devant nous. Ce qui est principalement visible aujourd'hui, c'est vraiment la perte d'épaisseur du glacier et le profil du glacier qui a changé. Alors aujourd'hui, voilà, on a un téléski qui part de 3200 mètres et qui monte à 3600 mètres, qui est exploité l'hiver, qui nous demande des travaux conséquents de maintien. Et effectivement, on a en projet à court terme de faire un troisième tronçon du téléphérique pour remplacer ce téléski et qui permettra toujours l'hiver aux skieurs de monter à 3006 et qui permettra en plus l'été ou aux intersaisons d'avoir une clientèle piétonne qui puisse profiter de ce panorama. Parce qu'aujourd'hui, pour monter à 3006, si on n'est pas alpiniste ou bon marcheur, il faut compter à peu près 2 heures de randonnée glaciaire. Le bureau des guides qui organise ça très très bien avec des guides pour justement vous monter en haut du dôme et là vous avez une vue qui est magnifique.
Avec un pylône qui fera 45 mètres là pour faire ce troisième tronçon dans le paysage, c'est pas dommage, c'est pas d'un autre temps. Est-ce que la bonne solution, ce serait pas dire statu quo, on abandonne même ce troisième tronçon, ce serait pas ça la solution dans l'air du temps, j'allais dire, avec toutes les préoccupations et les enjeux du moment?
Eh bien, c'est la solution qui serait dans l'air du temps si on occulte les deux premiers tronçons du téléphérique qu'on sera incapable de maintenir en état sans retombées économiques supplémentaires.
Le troisième tronçon vous permet de financer la restauration des deux autres.
Exactement. Ouais. Très clairement, le troisième tronçon fait partie du mix qui nous permet de maintenir et de rénover les deux premiers tronçons. Donc effectivement, aujourd'hui, ça peut être une solution qui serait entendable, entre guillemets, d'un point de vue écologie pure. Ça serait de ne pas faire de troisième tronçon et de se dire qu'on va jusqu'au bout de ce qu'on peut aller sur le tronçon 1 et 2 si ça s'arrête dans 10 ans.
100 mètres, c'est fini.
Et si ça s'arrête dans 10 ans, et ben, les villages de la Grave et Villars auront à se réinventer. C'est une responsabilité que moi, je ne veux pas porter, très clairement, que je n'assume pas. Je préfère me dire que l'écologie, c'est aussi de... Il y a une étude qui était parue, qui était très intéressante sur les paysages. Et en fait, le paysage n'est pas une carte postale. Il a la valeur patrimoniale de ce qu'on voit, mais aussi des activités qu'on y fait. Et aujourd'hui, dans le paysage, on a, sur le glacier de la Girose, historiquement, le téléski était conçu pour le ski d'été. Il a été très peu exploité pour le ski d'été. Aujourd'hui, il est exploité l'hiver. Demain, avec le troisième tronçon, on aura une exploitation 4 saisons. Et le glacier, on va le laisser respirer. Et je pense que ça aussi, c'est quand même dans l'air du temps. C'est plus difficile entendable, mais ça reste dans l'air du temps.
C'est le moment crampon là. On commence à s'équiper, on a déjà le baudrier. On rajoute les crampons pour pas glisser sur le glacier et on va finir par la corde.
Une randonnée sur un glacier, surtout de moins en moins épais, demande quelques préparatifs. Benjamin Ribéret et Erin Smart, guides de haute montagne, assurent la sécurité.
Et là, vous nous emmenez où, du coup ?
Donc là, on est sur le glacier de la Girose, sur la commune de La Grave. Et on va aller faire ce qu'on appelle la balade glacier. Donc c'est une balade de découverte du milieu de la montagne, de la haute montagne même. Donc aller voir tous les éléments constitutifs d'un glacier. Donc la neige, la glace, les crevasses, les rimées. Et essayer de vous faire découvrir le paysage dans lequel on évolue toute l'année.
On va avoir la température de tout le monde. Alors, maintenant, on va marcher sur le glacier. Tout de suite, on va arriver, il y a des belles crevasses, c'est hyper joli. Et en fait, on a la corde. Si jamais il y a quelqu'un qui tombe dedans, on peut attraper, ok ?
Vous restez à votre place sur la cordée et vous vous rassemblez pas.
C'est tout bon ? Parti ? Parti !
On est sur votre terrain de jeu. Donc vous êtes là depuis des années maintenant. Quand on parle réchauffement climatique et vraiment des marques de ce réchauffement, là où on est devant nous avec ces glaciers, qu'est-ce que vous constatez, Benjamin ?
Eh ben, un accroissement du nombre d'écroulements rocheux. En fait, les glaciers viennent border tous les pics rocheux. Leur rôle, ça va être de tenir le caillou. Donc, quand ils vont se retirer, ça va permettre des écroulements de plus ou moins grosse importance. Ce qu'on voit autour de nous, donc on voit le sommet du râteau ouest, on voit une partie de la pointe Trifide, qui est un sommet rocheux. Et au pied de cette pointe Trifide, on voit des énormes blocs devant nous, de la taille presque d'un autobus. Et donc ces blocs étaient accrochés avant à la montagne et se sont désolidarisés parce que le glacier s'est retiré. Le glacier fond, perd en épaisseur et en fait arrête de soutenir la montagne rocheuse. Il manque une vingtaine de mètres de glace en 20 ans, à peu près. Chaque année, les guides, on parcourt la montagne et on fait notamment des voies rocheuses qui partent depuis le glacier. Et le premier piton, donc le premier point d'assurance, se trouve, on va dire, par exemple à 10 mètres de la glace. Bah, l'année suivante, il sera à 11 mètres de la glace, et ainsi de suite. Et on se retrouve, en fait, nous, professionnels de la montagne, mais aussi les fédérations, à devoir aller en montagne pour équiper des nouvelles longueurs, des voies rocheuses, pour pallier en fait au retrait glaciaire.
Ce qu'on voit là, c'est-à-dire si on se met à 30, 40 ans, ces glaciers-là, ils ne seront plus là, on en est sûr ?
Alors on en est sûr, je ne sais pas, mais le dernier rapport du GIEC annonce une disparition, il me semble, de 80% de la masse glaciaire totale des Alpes à l'horizon 2050, donc dans 30 ans. Les 20% restants, ils ne seront pas ici en fait. Nous, on est déjà trop au sud et on est à 3600 mètres d'altitude, donc bien trop bas. Donc les 20% restants, il y aura peut-être encore une petite calotte en 2050 ici. Mais sinon, ce sera l'Oberland, le massif du Mont Rose, le massif du Mont Blanc. Mais là, le paysage qu'on voit en ce moment, dans 30 ans, il sera complètement bouleversé. Et il sera, au lieu d'être blanc comme il est devant nous aujourd'hui, il sera complètement gris, noir et très rocheux et minéral.
On voit bien aussi qu'à des stations de ski, celles qui ne sont pas très élevées, qui sont à des altitudes assez basses, aujourd'hui sont vouées aussi à disparaître. Il faut aller toujours plus haut. Ici, il y a un projet aussi pour aller plus haut en téléphérique, un troisième tronçon. Erin.
Pour moi, ça peut être comme je veux. On ne va pas avoir un troisième tronçon, mais peut-être avec mes clients perso, je vais monter un pot.
En ski de randonnée.
Et comme ça, en fait, oui, je vais continuer à monter plus haut pour chercher de la neige, toujours, parce que moi, je suis une skieuse, j'adore le ski. Mais en fait, oui, je veux bien faire du ski. Mais oui, c'est vrai qu'on va perdre quelques stations plus bas, c'est sûr. Mais faut qu'on s'adapte aussi avec le monde qu'on va avoir, qui est ici, en fait. C'est Manon. Ouais. L'été dernier, j'ai passé la formation de VTT. Alors, parce que comme guide, tu peux ajouter des formations comme canyon, VTT, tout ça, juste pour ajouter un petit peu plus pour le métier du guide, parce qu'en fait, fin de saison, ça peut être plus compliqué.
Benjamin ?
Construire un troisième tronçon ou ne pas le construire, c'est pas une question avec une réponse binaire en face. Il y a un équilibre économique qui a été construit par les stations de ski, en fait. Nous, on en fait aussi partie, les guides de haute montagne, et on peut pas avoir une transition, en fait, on-off en 2 ans. On dit, on arrête tous les téléphériques de France, toutes les remontées mécaniques, ça, c'est pas possible. Par contre, entamer une transition vers du moins câblé, donc les câbles, les remontées mécaniques, mais moins câblés, décarbonés, ça c'est possible si on part sur un objectif de 10 à 20 ans. Mais si dans les 3 prochaines années, on se dit qu'on construit encore un nouveau téléphérique, je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction. Ouais. En tant que citoyen habitant à La Grave, moi mon rêve ce serait d'avoir le glacier de la Girose complètement déséquipé. Donc on enlève ce téléski qui consomme 90 000 litres de fuel par an, on arrête le projet de troisième tronçon et on profite d'un des glaciers les plus grands des Alpes pour le découvrir à pied l'été, en ski de randonnée l'hiver, en raquette à neige aussi l'hiver, amener des scolaires pour leur montrer en fait qu'est-ce que c'est un glacier, parce que des jeunes qui sont au primaire en 2020, en 2050, ils auront à peine passé les 35-40 ans. Donc eux n'auront peut-être pas la chance de marcher sur un glacier comme on a pu le faire aujourd'hui. Et un petit conseil aux parents qui ont les moyens de se déplacer, amenez vos enfants découvrir en fait la haute montagne et les glaciers, parce qu'ils auront peut-être pas la chance de les voir plus tard.
S'adapter au changement climatique, déjà une réalité dans les Hautes-Alpes. C'était un reportage de Véronique Rebérotte, réalisé par Annie Brault.
Grand reportage, Catherine Pétillon.
Avec nous ce soir depuis Grenoble, Philippe Bourdeau, enseignant-chercheur à l'Institut de géographie alpine de l'Université Grenoble-Alpes, et en direct de Gap, Richard Bonnet, responsable scientifique du Parc des Écrins. Alors Richard Bonnet, si le réchauffement climatique peut encore parfois être pour certains quelque chose d'assez abstrait, dans les Hautes-Alpes, on l'entend très bien dans ce reportage, les gens vivent très concrètement les effets. Alors ça veut dire qu'ils n'ont plus le choix, ils sont désormais obligés de faire autrement ?
Ben oui, on le voit très bien dans les différentes interventions que vous avez présentées, quels que soient les métiers, les acteurs des Hautes-Alpes touchent le changement climatique à tout instant. Et Benjamin Rivière, le guide de haute montagne, le donne avec quelques chiffres, hein, qu'un glacier perd un mètre d'épaisseur tous les ans, ce qui est à peu près la moyenne, on le touche du doigt. Voilà, on le voit d'une année à l'autre changer, et c'est le paysage qui change, et ça marque nos esprits.
Véronique Rebérotte.
Vous avez lancé, Monsieur Bonnet, un programme Sentinelle. Ça, c'est intéressant parce que vous dites ici, on a pris conscience assez tôt du réchauffement climatique. C'était juste après la canicule de 2003.
Oui, tout à fait. Alors, je l'ai pas lancé seul. Hein. C'est toute une équipe, hein, une équipe de chercheurs et puis l'équipe du Parc national, hein, qui l'a lancé. Et suite à la canicule de 2003, on s'est demandé comment faire pour participer. Et l'idée, c'est pas de donner des leçons, c'est plutôt de se dire, on va tous se retrouver et créer un espace de dialogue pour imaginer le demain avec ces changements. Et juste la petite anecdote, c'est qu'au début, on ne parlait pas de changement climatique, mais on parlait juste d'aléas climatiques, ce qui est bien ressorti dans les premières interventions de l'éleveur du dévolu.
Alors, imaginez le lendemain, Philippe Bourdeau, vous comme chercheur, vous travaillez sur les activités de montagne. C'est un tourisme aujourd'hui qui est construit essentiellement autour de la neige. Alors quoi, c'est la fin ? Il faut désormais tout changer ?
Alors c'est très paradoxal parce que la neige, elle est effectivement plus rare, mais elle continue à être présente régulièrement. Mais il faut s'adapter à l'incertitude de sa présence. Et c'est effectivement une partie de la difficulté de cette transition, c'est que il faut prendre la neige quand elle est là. Elle va pas disparaître demain matin, mais son arrivée est beaucoup plus incertaine que par le passé. On l'entend bien dans votre reportage. Et donc les professionnels, ils doivent à la fois se préparer à l'absence de neige, en même temps que être aussi réactif quand elle est présente. Donc c'est ce que le philosophe Hartmut Rosa qualifie comme indisponibilité. La neige n'est pas aussi disponible qu'on l'a cru, et la neige de culture cherche à pallier cette indisponibilité, mais on ne peut pas en fabriquer partout pour plein de raisons.
Mais à quelle échelle du coup on peut réagir à cette incertitude ? Est-ce que c'est les stations de ski, ou alors ça veut dire qu'il faut aborder désormais les choses de manière plus large ? C'est quoi la bonne échelle ? C'est le territoire, c'est la station, la montagne, le département ?
Alors un des enjeux, c'est de s'adapter non seulement à l'échelle des stations, mais ça, elles s'en occupent tous les jours. C'est aussi de concevoir des pratiques de la montagne plus équilibrées dans la relation entre ce qui se passe dans les stations et ce qui se passe en dehors, parce qu'on a un petit peu tendance à peut-être oublier que les stations ne sont qu'une infime partie du territoire montagnard, et que le reste de la montagne est disponible et accessible pour des pratiques qui ont un ancrage historique très fort, du ski de randonnée, de la randonnée, de la randonnée pédestre, de l'alpinisme, et tout un tas d'autres pratiques. Donc cette réarticulation entre la montagne aménagée, celle des stations, et la montagne moins aménagée, celle des espaces protégés notamment, comme le parc, elle est au cœur de cette transition, et c'est ce qui est en train de s'opérer sous nos yeux à la faveur des dernières saisons.
Richard Bonnet, vous me disiez quand on préparait un peu votre intervention, on n'arrête pas de prendre finalement le mur du réchauffement climatique dans la figure. Ça veut dire qu'on est toujours en retard. Et si on reprend l'exemple des stations de ski, est-ce que pour me faire un troisième tronçon, c'est pas encore aller dans le mur plutôt que de complètement changer les activités, se diversifier dès maintenant ?
Ce qui est important de voir, c'est que le changement climatique nous impacte, et on a mis des dispositifs sentinelles justement pour les mesurer et pour avoir ces espaces pour en discuter. Par rapport à ce qu'a dit Philippe précédemment, moi je dirais aussi, c'est à nous utilisateurs, hein, quand on est vacancier, on vient avec un programme préétabli. on veut faire du ski, on veut faire du glacier, on veut faire tel sommet. Je pense qu'il faut arriver avec un peu plus de modestie. Il faut se dire, on veut faire de la montagne et en fonction des conditions, on verra ce qui est le plus adapté. Et ça, c'est à nous aussi, tout un chacun, de changer notre esprit. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point important.
On l'a entendu dans le reportage, l'enjeu, c'est aussi de se diversifier. Pas mettre ses œufs dans le même panier. L'arboriculteur, par exemple, Grégoire Delabre le dit, on est trop spécialisé. C'est ça aussi une des solutions, une des adaptations au réchauffement climatique dans un département comme les Hautes-Alpes?
C'est une piste indéniable, hein, dans les dispositifs dont je parle. Quand on discute, il n'y a personne qui a la solution individuellement. Et je pense que l'arboriculteur l'a bien dit, ils veulent travailler avec plus de personnes, mettre plus de gens sur le territoire, mettre plus d'intelligence pour s'adapter, et plus de bras aussi, hein, ça compte. Et ça, je pense que la diversification est une piste indéniable. Mais c'est aussi des petites innovations, hein. Ça peut être des innovations techniques, ça on en entend toujours parler, mais c'est des fois juste des innovations d'organisation. Il y a certains éleveurs qui sont en train de, et ça a été dit par l'éleveur du Dévoluy, de changer leurs pratiques, un peu moins de bêtes, pas les mêmes dates, pâturer différemment. Il y a 1000 solutions, mais il faut les construire, et c'est en discutant ensemble qu'on trouve celles qui sont les plus équilibrées.
Cet arboriculteur là que vous évoquiez, il dit plus on est spécialisé, plus on est fragile. Philippe Bourdeau, cette diversification, qu'est-ce qui aujourd'hui y fait obstacle? Est-ce que c'est la solution la plus évidente aujourd'hui?
Alors, l'exemple de l'agriculteur que vous avez interviewé est vraiment très illustratif, mais on va retrouver exactement les mêmes schémas dans le tourisme, avec un enjeu de déspécialisation. Le tourisme, il a été un fabuleux outil de développement, mais il est en train de devenir un facteur de fragilité parce qu'il est devenu quasi monopolistique. Il a fait, en quelque sorte, le vide autour de lui. Et moi, je rencontre de plus en plus d'acteurs professionnels du tourisme qui me disent il faut le remettre à sa place, le tourisme. Peut-être qu'il faut le voir plutôt comme une résultante d'un certain nombre de qualités, mais réduire la dépendance des territoires au tourisme de façon à valoriser différentes activités. L'enjeu, il y a 20 ans, c'était de sortir du tout-ski, il y a 10 ans, de sortir du tout-neige, et aujourd'hui, c'est de sortir du tout-tourisme, c'est-à-dire redonner toute leur place à l'agriculture, aux services, à l'artisanat. Et ça, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre, dans le sens où il y a des cultures qui se sont élaborées autour du tourisme, il y a encore des rentes, et puis il n'y a pas de solution de remplacement. On n'a pas sur étagère un modèle de développement de remplacement, et je crois que ça explique beaucoup des difficultés et des inquiétudes.
Mais justement, vous dites qu'il y a encore des rentes. Une des questions, c'est celle du modèle économique. Et par l'exemple du troisième tronçon ou non du téléphérique, il illustre bien toute la complexité de la transition à venir. Parce qu'il y a ce vers quoi on va, on voudrait aller, mais il y a aussi ce que potentiellement on quitte. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui a été pensé, imaginé, installé, sans prendre en compte la limitation des ressources, le réchauffement climatique. Donc ce sont des installations très concrètes, un téléphérique, une station, mais finalement aussi des modèles économiques au centre desquels ils se trouvent.
Oui, alors le tourisme a porté une utopie. C'était une utopie moderne basée sur l'aménagement de la montagne, une forme de puissance conquérante dans laquelle la technologie était au service de l'homme pour une émancipation, y compris des contraintes de la nature. Et ce qu'on est en train de redécouvrir, et vos interviews le montrent bien, c'est un certain nombre de limites. Un certain nombre de questions relatives à la taille des projets. Hein, on retrouve l'idée de Schumacher, small is beautiful. Ça ne veut pas dire que le petit est forcément meilleur, mais qu'en tout cas, il faut réfléchir à l'échelle des projets à la recherche d'un équilibre.
Mais comment on passe de l'un à l'autre?
Alors ça, c'est tout le problème de la transition, c'est comment on peut atterrir, comment on fait atterrir un système. On a peut-être bien besoin de neige de culture pendant quelques décennies, mais il faut pas l'avoir comme une solution définitive, ce qu'on tend peut-être un petit peu trop facilement à faire. Et là, il y a une inertie très forte, non seulement chez les acteurs, mais aussi dans les politiques publiques. Votre reportage auprès des gardiens de refuge l'a bien montré. Il y a des normes, il y a des règles, il y a ce dogme du soutien prioritaire à l'investissement par rapport au fonctionnement. Et ça, bon nombre de controverses aujourd'hui que l'on rencontre, y compris celle du troisième tronçon du téléphérique de la Grave, je pense, sont très illustratives de ces questions-là.
Véronique Robert. Richard Bonnet, justement, vous avez mis en place un refuge sentinelle. Ce que vient de dire Monsieur Bourdeau, c'est-à-dire il y a des obstacles aussi juridiques, des aides qui viennent pas facilement. C'est quelque chose que vous retrouvez dans les groupes de discussion de ce dispositif sentinelle sur les refuges ou ailleurs, des verrous qu'il faut faire sauter comme ça pour faire une bonne transition.
Alors dans Refuge Sentinelle, c'est pas le cœur de la question, mais bien sûr que ça revient. Le Refuge Sentinelle, l'idée c'est que les gardiens et les guides récoltent des données scientifiques en montagne sur ce changement climatique et le changement global et sur l'évolution de l'activité touristique. On n'est pas sur la partie bâtiment ou comme on l'a vu là, énergétique, mais bien sûr que les questions arrivent. Le gros avantage de ces dispositifs Sentinelle, c'est qu'ils permettent le dialogue entre tous les acteurs. Il évite que chacun se retire dans sa tour d'ivoire et ne s'occupe pas de son voisin. On est tous sur le même territoire, c'est important d'échanger. Et donc, on commence par des données scientifiques et après, ces acteurs-là, avec certains de mes collègues, discuteront des questions qui tournent autour de l'aménagement, hein, parce que c'est des questions d'aménagement. Pour revenir sur les choix énergétiques, il est clair que d'un refuge à l'autre, le choix le plus adapté va être très variable. Il pourra pas être fait la même chose un refuge qui est à 3100 comme un refuge qui se retrouve à 1500 mètres d'altitude. Hein. La ressource n'est pas la même, les contraintes climatiques ne le sont pas non plus. Mais le but, et encore une fois, ce changement, nous devons l'aborder tous ensemble et sans tabou.
Mais le constat aujourd'hui quand même, en hélicoptère, on emmène un générateur dans un refuge, on n'a besoin d'aucune autorisation et on veut installer quelque chose de plus propre, c'est compliqué.
Bien sûr, et Philippe l'a bien dit, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être discutées. Il est plus facile d'investir 7, 8 ou 10 millions d'euros plutôt que d'avoir, nous on cherche pour Refuge Sentinelle, quelques milliers d'euros pour que la personne puisse animer le dispositif. C'est de l'ordre de 50 000 euros maximum par an, impossible à trouver. Vous faites un projet d'investissement à 3 ou 4 millions d'euros, ça sera peut-être moins compliqué. Donc ça, c'est vraiment un paradigme de notre société. Et Philippe l'a dit, et je pense que c'est l'écueil principal de pour l'adaptation et pour la transition, c'est de favoriser l'investissement. Moi, je trouve que ce qu'a dit l'arboriculteur Monsieur Delabre est très intéressant parce que lui, il veut réinstaller des personnes. Il aurait plus facile à réinstaller des dispositifs pour contrecarrer chaque élément. Or non, il a réfléchi dans l'autre sens. Il se dit, les éléments, il faut que je fasse avec, je vais me diversifier et je veux remettre du monde sur le territoire. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, vers ce genre de promotion, plutôt que d'aller vers le toujours plus de technologie pour contrecarrer cette évolution naturelle qui est le changement climatique.
On entend qu'il y a eu beaucoup de solutions déjà trouvées. Philippe Bourdeau, est-ce que ces solutions, elles peuvent changer d'échelle, être dupliquées à d'autres territoires? Est-ce qu'une accumulation d'initiatives de ce type peut suffire à changer les choses finalement?
Alors c'est vrai que la montagne est en première ligne du changement climatique avec des effets amplifiés, mais en même temps, c'est aussi un lieu d'expérimentation, et ça c'est une des racines historiques de la vie en montagne, hein, que l'écart au centre, les difficultés cumulées vont stimuler l'inventivité. Donc ce qu'on a regardé comme des handicaps, la pente, l'altitude, vont potentiellement s'inverser en avantage. On a bien vu dans la culture, y compris dans la culture de la vigne par exemple, mais pour la vie quotidienne tout court, le potentiel de fraîcheur de la montagne est aussi un atout, la présence de l'eau, l'attractivité résidentielle, la dynamique dans les milieux professionnels qui sont expérimentés depuis de longue date à la pluriactivité et à l'adaptation sont d'excellents atouts.
Est-ce que finalement ce changement, il relève finalement seulement d'un problème économique ou est-ce qu'il y a aussi des manières de penser, des questions de culture à changer?
C'est sûr que ce qu'on constate en montagne comme ailleurs, c'est qu'on est une sorte de panne d'imaginaire. On a eu une utopie aménagiste très très forte, très très puissante, et pour la relayer, on s'aperçoit qu'il va falloir de l'intelligence climatique, il va falloir de l'intelligence collective, et faire bouger les lignes sur un certain nombre d'outils, de leviers, de potentiels. Mais là, d'une certaine manière, il y a des lignes qui bougent d'ores et déjà. On parlait de la primauté accordée aux investissements, on s'aperçoit que le commissariat de Massif des Alpes est en train de mettre en œuvre des leviers pour soutenir l'animation. des projets de transition et d'observation. Mais donc le changement, il est déjà là, il est déjà en œuvre et il faut accentuer le soutien qu'on lui porte.
Merci Philippe Bourdeau, merci Richard Bonnet. S'adapter au changement climatique, déjà une réalité dans les Hautes-Alpes. Le grand reportage de cette semaine était signé Véronique Rebérotte et réalisé par Annie Brault, avec à la technique aujourd'hui Nasser Moussaoui. Un grand merci aux équipes d'Alpes numéro 1 et de France Bleu User d'avoir accueilli nos invités et rendu possible ces échanges. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et podcaster sur franceculture.fr et l'application Radio France.